Radio Okapi.
À la présentation du journal, Belinda Bossouma.
Brazzaville, dernière étape de la tournée du chef de l'État Félix Tshisekedi dans la sous-région. Arrivé hier, un tête-à-tête est prévu ce vendredi avec le président Sassou Nguesso, rapporte des sources proches de la présidence. Il faut prendre des précautions pour que la RDC ne revienne pas sur la liste des pays où les enfants sont recrutés au sein des forces armées. Recommandation du groupe de travail technique conjoint sur les enfants et les conflits armés, c'était à la clôture d'un atelier hier à Kinshasa. Et puis, l'invité de ce matin, Pierre-Henri Dimanche, nouveau coordonnateur provincial de la coopération belge dans la Tchopo. Il nous parle notamment du déroulement des différents programmes de sa structure dans cette province. Madame, Messieurs, bonjour. Ce journal part de Brazzaville, où séjourne le chef de l'État, Félix Tshisekedi, après les étapes de Luanda et Nairobi. C'est hier après-midi que le président de la RDC a atterri à Brazzaville. Il a été accueilli à l'aéroport de Mayamaya par son homologue, Denis Sassou Nguesso, et en fanfare par une foule des gens. Selon le quotidien quinois Le Potentiel, qui livre l'information, les deux chefs d'État ont eu un long entretien au salon d'honneur du pavillon présidentiel, mais rien n'a filtré de cette entrevue. Des sources proches de la présidence de la République rapportent que le président Tshisekedi devrait passer la nuit à Brazzaville avant un tête-à-tête avec le président Sassou Nguesso ce vendredi au palais présidentiel. Les mêmes sources parlent des relations bilatérales au centre de leurs échanges. Entre-temps, ici au pays, deux semaines après l'investiture du nouveau président de la République, la RDC n'a toujours pas de nouveau premier ministre ni une nouvelle équipe gouvernementale. Pourquoi ça traîne? Tentative de réponse avec le professeur André Mbatama Mangou, de droit constitutionnel à l'université de Kinshasa. Il est joint par Jeff Ngoy.
L'article 78 de la Constitution prévoit que le Premier ministre est nommé, il est désigné par le chef de l'État au sein de la majorité parlementaire. Et lorsque cette majorité n'existe pas, le chef de l'État doit désigner un informateur qui doit identifier la majorité. Et dans le cas d'espèce, en voyant les chiffres qui ont été les résultats publiés par la CENI, eh bien, aucun parti politique reconnu n'a la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut dire aussi que le CASH, la MOUCA ou le FCC ne sont pas reconnus au niveau de l'Assemblée nationale. Là, on ne reconnaît que les partis politiques et les groupements qui ont été reconnus comme tels au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc, à ce stade, aucun parti politique n'a la majorité à l'Assemblée nationale et le chef de l'État qui vient de prêter serment de respecter la Constitution doit s'y conformer impérativement et désigner un informateur. D'où qu'il vienne de CASH ou qu'il vienne de FCC, mais le chef de l'État doit désigner un informateur pour identifier la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Bon, pourquoi est-ce que ça traîne? Il faut d'abord attendre qu'on valide les mandats des députés. 26 commissions ont été créées pour la validation des mandats.
Pendant ce temps, le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale a fait la ronde hier des différentes commissions spéciales qui examinent les dossiers des députés de toutes les 26 provinces de la RDC en vue de validation des pouvoirs. Les élus de chaque province constituent une commission spéciale qui examine les dossiers des élus d'une province autre que la leur. Certaines commissions ont même terminé leur travail dès ce premier jour sur les 5 qui leur ont été accordés, ce à la grande satisfaction du président Kyungwa Kumwanza. Il est au micro de Michel Kifindangoy.
J'admire l'état d'esprit du travail. Nos collègues travaillent avec beaucoup d'assiduité. Il y en a qui sont déjà presque à la fin. Et ce que j'admire, c'est la ponctualité, c'est la volonté d'aller de l'avant. Le pays peut compter sur le Parlement, sur l'Assemblée nationale actuelle, composée principalement de jeunes Turcs qui ont besoin vraiment de remettre le train sur les rails. Ils travaillent sans faute. Il y aura la plénière pour adopter les travaux qui sont en cours et on va surtout ce jour-là consacrer à la validation des mandats. Je suis très impressionné par l'engouement, la volonté. Je crois que nous sommes à l'ère du changement. Je sens que le changement est entré dans les sang des Congolais. Les choses vont aller pour le mieux et il y a espoir.
Toutes les précautions devront être prises dans les différentes activités de 2019 pour que la RDC ne revienne pas sur la liste des pays où les enfants sont recrutés au sein des forces armées. Un appel du général-major Joseph Mutombo Katalay, premier président de la Haute Cour militaire et coordonnateur du groupe de travail technique conjoint sur les enfants et les conflits armés, appel lancé jeudi à la clôture de l'atelier sur la définition de la feuille de route 2019 de cette structure, atelier tenu à Kinshasa mercredi et hier jeudi. Le général Major Joseph Mutombo dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
L'objectif, c'est de continuer à lutter contre les 6 violations graves de droits de l'enfant, particulièrement le recrutement et l'utilisation des enfants, ainsi que les violences sexuelles. Nous avons déjà obtenu un résultat palpable. C'est ce qu'on a appelé le délistage de forces armées de la liste des parties en conflit qui utilisent les enfants. Mais nous devons préserver cet acquis. Si dans les différents recrutements qui se font, non seulement au sein de forces armées, mais aussi à la police, on ne prend pas beaucoup de précautions, nous risquons de grossir les statistiques des enfants retrouvés dans nos rangs. Ça risque d'impacter négativement sur le renom de la République démocratique du Congo.
Et concernant les violences sexuelles contre les enfants dans le contexte des conflits armés, la section protection de l'enfant de la MONUSCO a indiqué au cours de cet atelier que 51% des violations documentées en 2018 étaient attribuées aux agents étatiques, notamment aux éléments de l'armée et de la police nationale. Justice. Le procès du meurtre des experts au Kasaï s'est poursuit devant le tribunal militaire garnison de Kananga. Au cours de l'audience de jeudi, le ministère public a présenté au tribunal un relevé téléphonique qui révèle que l'un des principaux accusés, Vincent Manga, a entretenu une abondante communication avec plusieurs personnes suspectées d'avoir participé au meurtre des Aïda Catalan et Michael Sharp. Plus de détails avec Joël Bofengo.
Avant d'entrer dans les détails du relevé téléphonique, le ministère public demande à Vincent Manga de donner au tribunal son numéro de téléphone. Les prévenus affirment ne plus s'en souvenir, déclarant n'avoir plus touché à son téléphone depuis mars 2017 quand il l'a perdu. Le ministère public dit trouver curieux que Manga ait perdu son téléphone au cours du même mois où les experts sont exécutés. Il insiste et le prévenu finit par concéder que son numéro de téléphone se termine par les chiffres 5 et 9. Le ministère public présente alors un numéro identifié par un opérateur téléphonique comme appartenant à Vincent Manga. Il se termine bien par 5 et 9. L'accusation révèle ensuite une abondante communication après le meurtre entre Vincent Manga et plusieurs présumés miliciens cités au cours de ce procès. Augustin Tchakwissa, Clément Tchakwissa, Jean Koutenalo, Kafeli, autant de personnes citées comme ayant personnellement participé à l'exécution des experts. Autre chose relevée par l'examen du relevé téléphonique, au cours du mois de mai, 2 mois après la mort des experts, le numéro de Michael Sharp appelle à plusieurs reprises Vincent Manga. Le 5 mai 2017, les deux numéros sont en conversation pendant plus de 10 minutes. De Kananga, Joël Bofeng, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, la reprise de travail hier à la Société congolaise de postes et télécommunications SCPT. Les agents ont ainsi reçu la promesse du paiement dès lundi prochain d'un mois de salaire sur les 3 mois réclamés. Le directeur général de cette entreprise, Patrick Oumba, promet de répondre au reste de leurs revendications à la réunion qui se tiendra le 15 février prochain, affirme le président du syndicat, Raymond Kizonsi, au micro de Sarah Sumbela.
Nous avons été en réunion tripartite entre l'inspection générale du travail, l'employeur de la SCPT ainsi que la partie syndicale SCPT. Et nous avons signé un protocole d'accord de suspension de mouvement de grève. Je dis bien, ce n'était pas une levée du mouvement de grève, mais c'était la suspension. Ce matin ici, nous avons tenu une assemblée générale avec les travailleurs. Les travailleurs sont avec nous et ils nous font totalement confiance. Nous leur avons demandé de pouvoir reprendre le travail. Donc ce matin, à 10h déjà, le travail a repris. Si vous vous rendez à cette heure à l'hôtel de poste, vous allez voir tous les travailleurs sont à leur poste. Nous attendons seulement voir ce que l'employeur va faire. S'il est de mauvaise foi, si nos revendications ont contre pas sa bonne foi, alors là, nous allons leur demander encore dès la semaine prochaine de sortir.
Province du Olomami, signalant l'inauguration par la MONUSCO mercredi à Kamina d'un marché moderne. Il s'agit d'un projet impact rapide financé par la MONUSCO Lubumbashi pour un coût de plus de 29 000 dollars et exécuté par l'association Rafiki Yawali Maji. Ce geste a été salué par la population. Madeleine Waila, reportage.
Chant, cri de joie, c'est l'ambiance qui a prévalu mercredi au quartier 82 à Kamina. Le marché 82, c'est l'appellation du marché qui a été modernisé avec la construction de deux pavillons. Les travaux ont été exécutés par l'association Rafiki Yawali Maji, Rawa de Kamina. Pour l'ONG qui était à pied d'œuvre, les travaux ont duré 3 mois. Le coût des travaux est de 29 600 dollars américains. Pour la MONUSCO, l'objectif est d'améliorer les conditions de travail des vendeurs du marché 82 dans le cadre de la promotion du genre. Josiah Obat, chef de bureau de la MONUSCO Lubumbashi.
Nous, comme les MONUSCO, on tient beaucoup à la participation des femmes dans toutes les activités dans la vie. Et c'est dans le sens-là que la MONUSCO a écouté les demandes de la population de venir en appui pour construire ce marché.
Le ministre provincial de l'Intérieur du Haut-Lomami, qui a assuré l'intérim du gouverneur de la province, a félicité la MONUSCO pour le geste posé. Il a par la suite exhorté l'administrateur du marché à se prendre en charge pour préserver cette œuvre. Lubumbashi, Madeleine Waila, Radio Kapi.
L'invité.
Nous sommes à Kisangani. Le nouveau coordonnateur provincial de Enabel, l'agence de coopération belge dans la province de la Tchopo, a rencontré mercredi le chef de bureau de la MONUSCO. Enabel entreprend 3 programmes financés à hauteur d'environ 40 millions d'euros par le Royaume de Belgique. Le coordonnateur Pierre-Henri Dimanche est notre invité. Il nous parle du déroulement des différents programmes d'Enabel dans la Tchopo et s'entretient avec Dorcas Kankou.
Pierre-Henri Dimanche, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer le chef de bureau de la MONUSCO. Est-ce que vous pourriez nous dire de quoi était-il question?
Je suis le nouveau coordonnateur, donc j'ai repris ces fonctions officiellement depuis le mois de novembre. Étant nouveau, il était logique que je prenne contact avec un certain nombre d'acteurs. Il était aussi pour moi important de prendre contact avec le système de sécurité des Nations Unies, dans un objectif de se connaître et de éventuellement coordonner un certain nombre d'actions, partager un peu quelques idées et indiquer que, de toute façon, la coopération belge dispose de son propre plan de sécurité, mais je pense qu'il est quand même important de pouvoir coordonner avec le système de sécurité des Nations Unies, entre autres.
Et dites-nous, si nous revenons aux activités qu'Enabel mène dans la Tchopo, quelles sont ces activités en cours qu'Enabel entreprend dans la province de la Tchopo?
Le programme provincial est un programme qui a démarré déjà entre 2014 et 2015. Il s'agit de programmes de développement agricole.
Qu'est-ce que vous faites exactement dans ce secteur de l'agriculture?
On travaille sur le développement agricole à travers des organisations de producteurs, entre autres avec l'amélioration de semences, de qualité, aussi au niveau transformation de leurs produits et commercialisation. Donc il y a aussi des petites constructions qui se font, équipements, etc. Beaucoup de formation. On travaille à travers les services déconcentrés de l'État, puisque c'est important aussi de ne pas faire une gestion en direct auprès des bénéficiaires, mais de renforcer aussi les capacités des structures existantes. Le deuxième programme qui se développe, c'est un programme d'éducation technique et d'insertion professionnelle. La même chose, c'est aussi donc à travers les services déconcentrés et le ministère provincial de l'éducation et d'insertion professionnelle. Ces écoles sont appuyées, même chose, à travers des formations, à travers des équipements et à travers des constructions quand c'est nécessaire. Et un troisième programme qui est un programme de réhabilitation de pistes et aussi de bac. Pas les routes nationales ou provinciales, on travaille sur les secondaires. Ce programme de désenclavement travaille en étroite collaboration avec le programme agricole dans un objectif justement de pouvoir faciliter la commercialisation des produits.
Monsieur Pierre-Henri Dimanche, nous commençons une nouvelle année. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont les défis à relever pour Enabel à travers ces 3 programmes pour cette année, qui est même la dernière année de ces différents programmes?
Ce sont les mêmes pour les 3 programmes, c'est-à-dire pouvoir consolider les acquis que l'on a obtenus depuis 2014 ou 2015 selon les programmes. De toute façon, c'est-à-dire conclure toutes les activités qui sont en cours, hein, s'il y a des constructions, etc., etc. Mais surtout, laisser des capacités déjà davantage consolidées auprès de nos partenaires, que ce soit au niveau de l'État, ministère, etc., ou des services déconcentrés, ou plus bas, si on peut dire ça comme ça, par exemple, les organisations de producteurs qui sont aussi formées et renforcées, que ce soit la direction provinciale des routes, etc., etc. Donc, ou les écoles, au niveau, par exemple, de la gestion des écoles, direction, entre autres. Donc, c'est ça, je dirais, le défi majeur. Mais aussi, un deuxième défi majeur, c'est la réflexion par rapport à une prolongation éventuelle de ces programmes d'une année, voire deux. Mais bon, on en est encore qu'au début, je dirais, de cette réflexion. L'idée, c'est de pouvoir définir de toute façon cette perspective d'ici 3-4 mois au plus tard.
Qu'est-ce que vous attendez de la population de la province de la Tchopo?
D'après les opinions que l'on a eues, s'ils ressentent que les bénéfices ou les actions, les activités que le programme développe via aussi ses partenaires a des impacts positifs pour eux, de pouvoir participer de façon, je dirais, active à ces activités, puisque finalement, le bénéfice final, c'est surtout pour eux. Donc, c'est ce qu'on attend, et qu'ils ne soient pas parfois trop attentistes à seulement attendre des actions de notre part, mais à la limite, demander aussi des actions ou des ajustements quand c'est nécessaire. Donc, c'est ce qu'on demande. Je ne veux pas dire pour cela que ça n'a pas été le cas, mais si on est vraiment dans une dernière année, voilà, il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, c'est vraiment le moment pour le faire.
Pierre-Henri Dimanche, je vous remercie.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, c'était là notre invité, le nouveau coordonnateur provincial de ENABEL. C'est l'agence de coopération belge dans la province de la Tchopo. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.